Est-ce que vous connaissez Balaam? Oui. Est-ce que vous avez son 06? Non, ben on va l'avoir maintenant. Hein? Balaam, c'est l'histoire d'un homme qui avait un grand privilège. Quand même, il parlait à Dieu et Dieu lui parlait, hein, en direct. Et puis, son autre privilège, c'était qu'il n'était pas israélite, il n'était pas hébreu. Et quand même, Dieu lui a parlé, mais il a fait un mauvais choix. Voilà, ce matin, Francis, voilà, nous a encouragé et fait réfléchir sur le mauvais choix. Comment? On va voir comment Balaam est passé à côté de sa vie. Hein. Et c'est une instruction pour nous. Tu peux tout avoir dans ta vie, tout entre les mains. Voilà, et puis avoir peut-être un avenir qui t'est prometteur, mais on peut aussi vraiment foirer, comme c'était le cas malheureusement de Balaam. Alors on va un peu poser donc le texte. C'est dans Nombre. Alors si vous connaissez pas Balaam, relisez Nombre 22, 23, 24. C'est une très belle histoire. Hein. Alors Nombre 22 commence ainsi. Une nouvelle étape conduisit les Israélites dans les plaines de Moab, sur la rive donc orientale, c'est-à-dire à l'est du Jourdain, en face de Jéricho. Balak, donc fils de Tsippor, qui était roi de Moab à cette époque, apprit comment les Israélites avaient fait la guerre et avaient traité les Amorites. Le roi et tout son peuple se mirent à trembler de terreur à l'idée que les Israélites arrivaient en si grand nombre. Alors, les habitants de Moab dirent aux notables de Madian, « Regardez, cette multitude est sur le point de tout ravager autour de nous, comme des bœufs qui broutent toute l'herbe d'un pré. » Le roi donc envoya une délégation à Balaam, fils de Péor, qui habitait Pétor sur le fleuve. Il lui adressait ce message. « Il y a ici un peuple venu d'Égypte qui couvre toute la surface du pays. » Il s'est installé non loin de moi. Viens donc à mon aide, je t'en prie, et maudis ce peuple, car il est plus puissant que mon propre peuple. Et si tu acceptes, je pourrai peut-être le vaincre de le chasser et le chasser de la région. Je sais en effet que les bénédictions et les malédictions que tu prononces sont efficaces. Les messagers des notables de Moab et Madian emportèrent de quoi payer le devin Balaam et se rendirent auprès de lui. Ils lui transmirent la requête de Balak et Balaam leur dit « Passez la nuit ici, demain je vous donnerai la réponse que le Seigneur m'aura communiquée. » Alors les chefs de Moab demeurèrent donc chez Balaam. Voilà pour l'histoire. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est qui est Balaam, puis après, on parlera de Balak, le roi de Moab, et puis, voilà, comment Balaam va prendre une pente glissante. Hein. Alors, pour comprendre un peu, et situer un peu géographiquement tout ce petit monde, eh bien, voici une carte. Ça fait 40 ans, déjà, que les Israélites ont quitté l'Égypte, et ils sont maintenant aux portes de la terre promise. Jéricho est en face d'eux et devant ce mouvement migratoire entre 2,5 millions et 3 millions de personnes, évidemment toutes les nations qui sont là tremblent. Hein. Et donc Balak, qui est le roi de Moab, qui est donc une région donc de l'autre côté de Jéricho, eh bien va faire appel à Balaam. Alors où se trouve Balaam? Eh bien il se trouve à l'Euphrate, au bord de l'Euphrate. Donc c'est en Mésopotamie, bien en haut, en Syrie. Hein. Alors il y a des centaines de kilomètres entre Jéricho, devant Jéricho où se passe l'action, le regroupement, et Balaam qu'il faut prévenir et le faire venir. Donc c'est pas une histoire qui a duré, j'envoie un SMS, il me répond, j'envoie un autre SMS, il me répond, et l'affaire est réglée. Il faut vraiment faire cette démarche jusque là-bas et le faire revenir. Alors Balaam est quelqu'un qui est un homme qui connaît Dieu. Hein. Alors, et il est très intéressant de voir qu'il emploie le nom de Dieu tel que les Israélites l'employaient. Surprenant, hein? Il sait des choses sur Dieu que d'autres peut-être ne savent pas. Il nomme Dieu comme l'Éternel, vous savez, le Yahvé de l'Ancien Testament, la manière dont Dieu s'est révélé à Moïse. En parlant de Dieu, il dit l'Éternel, mon Dieu. Il se l'approprie et il parle du Dieu tout-puissant et même du Dieu très haut. Alors ça, c'est intéressant. Voici un homme qui n'est pas juif, qui n'est pas hébreu, il est mésopotamien, et cet homme connaît Dieu. Et en plus, il a un don particulier. Ce qu'il maudit est maudit, ce qu'il bénit est béni. Et sa renommée et sa puissance sont grandes. D'ailleurs, c'est ce que dit Balak. Hein. Si tu acceptes, eh bien, je pourrais vaincre ce peuple et le chasser de la région. Et je sais que les bénédictions et les malédictions que tu prononces sont efficaces. Alors, Balaam donc utilise des formules efficaces. Sa connaissance de Dieu ne fait aucun doute. Et on pourrait se poser la question, vu qu'il n'est pas hébreu, vu qu'il ne fait pas partie du peuple d'Israël, comment est-ce qu'il connaît Dieu? Et voilà que, en fait, surprenant, Dieu communique avec Balaam. La nuit même, il est dit, alors Dieu vint demander à Balaam, qui sont ces gens que tu as reçus chez toi? Bon, c'est une formulation, hein. C'est pas que Dieu n'est pas au courant, hein. Ah, tiens, il y a des gars là, c'est qui? Dieu sait tout, évidemment. Et Balaam répondit, bien, c'est Balak, hein, le fils de Tsippor et roi de Moab, qui a envoyé ses hommes pour me dire, le peuple qui a quitté l'Égypte, eh bien, couvre toute la surface, viens donc à mon aide, hein, et je te prie, maudis-le. Alors, il y avait une connaissance, mais une connaissance obscure de Dieu, parcellaire, hein. Et cette connaissance existait en dehors du peuple d'Israël. Plus ou moins importante chez des individus, par exemple, Job connaissait un peu plus Dieu que ses amis, Laban connaissait Dieu, Jéthro connaissait Dieu. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand, dans les premières pages de la Genèse, Dieu va se révéler de manière personnelle et de plus en plus à Abraham et à sa descendance. Et puis tout le monde, dans le Proche-Orient ancien, avait entendu, donc jusqu'en Mésopotamie, avait entendu l'action de Dieu. Hein, à tel point que Balaam le dit, hein, c'est le Dieu qui a fait sortir ce peuple d'Égypte. Je ne sais pas si les gens autour de toi connaissent ton témoignage. Mais c'est important qu'ils le connaissent. Parce que c'est une manière aussi de montrer que Dieu agit dans ta vie. Et ça peut être percutant et ça peut aider. En tout cas, les gens savaient ce que Dieu avait fait pour son peuple d'Israël. Même Rahab, qui était à Jéricho, avait dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Et Moïse dira, en effet, quelle est la grande nation qui est des dieux aussi proche d'elle que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Ce que Dieu veut, c'est se faire connaître aux hommes, bien sûr. Il désire que l'on invoque, il désire manifester son amour à ces hommes qui sont sur terre. Alors, jusqu'à maintenant, dans cette histoire et la suite, eh bien, il n'y a rien de négatif qui est dit sur Balaam. Et personne dans le monde païen, eh bien, ne remet en question la grande réputation que cet homme a, et c'est pourquoi il va être sollicité. Balak vient, hein, et donc vers lui, hein, et c'est alors que Dieu vient demander à Balaam, donc qui sont ces gens-là, hein. Alors, qui sont ces gens-là? Eh bien, Balak, le roi de Moab. Le roi de Moab, eh bien, c'est un homme qui règne sur, bien sûr, une peuplade très connue. Et ce qui est très surprenant, c'est de voir que non seulement lui, mais tout le peuple commence à trembler de terreur à l'idée que les Israélites arrivaient en si grand nombre. Alors c'est un cousin éloigné des Israélites. Alors j'ai été surpris de voir que ce qui a motivé le roi Balak, c'est sa peur. Il a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il comprend qu'Israël a quelque chose de particulier. Israël est invincible parce qu'il y a quelque chose. Hein. Il discerne que le combat est d'abord spirituel. Vous savez, tout combat est d'abord spirituel. Et l'apôtre Paul le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce qui anime les guerres? Qu'est-ce qui anime les conflits, les hostilités? Ne pensons pas d'abord que ce soit l'homme. Derrière l'homme, il y a un combat spirituel. Il y a des forces qui poussent l'homme à se dresser contre les autres hommes. C'est pourquoi il est important, dans des combats et des conflits, de prier. Aujourd'hui, le monde est dans une telle angoisse et la réaction des gens peut être soit la religiosité, soit de faire appel à des forces occultes pour combattre ces angoisses. Où trouver un refuge? Où trouves-tu un refuge quand la peur s'empare de toi? À qui te confies-tu quand l'angoisse commence à prendre le dessus? À ton raisonnement, à tes capacités, à tes amis? En réalité, la peur de Balak n'est même pas justifiée. Et c'est ça qui est surprenant dans ce texte. Voilà un homme qui a pensé qu'il devait faire la guerre à Israël, alors que Moïse pouvait lui simplement dire que Dieu leur avait interdit de faire la guerre à Moab. Vous voyez, quand on a peur, au lieu de se calmer, au lieu d'être posé, nous partons dans tous les sens et nous prenons de très mauvaises décisions. Hein? Moïse donc dira ceci, « L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne te mets pas en campagne pour lui faire la guerre, car je ne donnerai pas de possession dans son pays. C'est au fils de Lot que je l'ai donné en possession. » Et Moab, les Moabites sont des descendants donc de Lot. Vous voyez, quand nous avons peur, quand nous commençons à être saisis par la crainte, nous faisons souvent de mauvais choix. Nos peurs sont bien souvent injustifiées. C'est pourquoi nous avons besoin, quand les choses nous dépassent, de retrouver le Seigneur. C'est dans le calme et la confiance, de baisser la pression. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, Balaam n'a pas vu cette chose sous cet angle. Il a écouté, il a reçu Balak, et pourtant Balaam, ne va pas user de sagesse. Il va se diriger vers une pente glissante. Voilà ce qui est dit sur lui. Dieu lui répond. Ils sont venus te demander de maudire. Dieu lui dit, tu n'iras pas avec eux. Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car moi, je l'ai béni. Le lendemain, dès qu'il fut debout, Balaam dit au notable envoyé par Balak, retournez dans votre pays, car le Seigneur m'interdit de partir avec vous. Et le notable de Moab revint dire à Balak que Balaam avait refusé de l'accompagner. On ne peut pas se dresser contre le peuple de Dieu. C'est beau, non? On ne peut pas s'en prendre aux croyants. On ne peut pas s'en prendre aux chrétiens sans que Dieu soit lui-même touché. Quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu donne le feu vert, c'est le feu vert. Alors il est évident que Balak le prend très mal. Il attend quelques jours parce qu'ils sont partis et ils doivent revenir. Et ils reviennent avec cette mauvaise nouvelle, qu'il ne viendra pas pour exécuter les ordres. Alors, Balaam donc le redit, verset 18, aux serviteurs qui sont revenus avec plus de richesses, plus de cadeaux, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrai rien faire, ni de petit ni de grand, contre l'ordre de l'Éternel notre Dieu. Mais il y a un petit quelque chose qui va changer la donne. Ce petit quelque chose, c'est ce qu'il ajoute. Dieu a dit non. Que dit Balaam? on peut encore négocier peut-être. Hein? Hey, les enfants sont très forts à ça. Hein? Hein? Maman a dit non, papa il peut dire oui. Hein? Ou papa a dit non, maman peut dire oui. Hein? On essaie toujours de négocier. Et leur dit, voilà, maintenant, ben, restez encore cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Attends, c'est clair, non? Non, c'est non. Alors Dieu vint à Balaam la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, alors lève-toi, va avec eux, mais tu exécuteras la parole que je te dirai. Pourquoi finalement Dieu a-t-il dit oui à Balaam? Est-ce qu'il a changé d'avis? Avons-nous un Dieu qui change d'avis? Hein? Non. Non, c'est non, oui. Non, en fait. Et oui, exactement, c'est ce que le message de la semaine dernière. Dieu existe et ce que Dieu dit reste vrai. Pourquoi alors Dieu, eh bien, il dit maintenant à Balaam, tu peux y aller. Pourquoi lui autorise-t-il à partir? Hein? Peut-on lui forcer la main? Alors même Balaam le dira en face de Balak. Tu sais, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est ni un fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Alors Balak connaissait la volonté de Dieu et Dieu connaissait le cœur de Balaam, mais secrètement, il y avait quelque chose qui attirait Balaam à aller vers le chemin de la désobéissance. Alors vous connaissez peut-être cette histoire, en tout cas les enfants le connaissent bien, l'histoire de l'âne de Balaam. Balaam monte sur son âne le lendemain, et voilà que son âne lui résiste une fois, deux fois, trois fois. Et son âne, en fait, a vu un ange devant lui l'empêchant de passer. Hein. Et puis, Balaam crie contre l'âne, et l'âne lui parle. Alors c'est vrai que c'est une scène un peu bizarre. Hein. C'est très curieux de voir un homme discuter avec son âne. En tout cas, c'est un récit particulier. Et dans la Bible, il n'y a que deux animaux qui ont parlé. Enfin, trois. Le premier, c'est le serpent. Le deuxième, c'est la nèse de Balaam. Et le troisième, c'est le grand poisson de Jonas qui a fait berk. Bon. Hein. Voilà. En tout cas, ce récit est particulier. Et on pourrait dire, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Alors moi, j'aime beaucoup ce récit de l'âne qui parle parce que ça a permis à un frère dans le Seigneur, eh bien, d'apporter un argument devant une commission de ministère. Ce frère était jeune, il n'était pas du tout diplômé et il était appelé à faire pasteur. Et il est passé donc devant cette commission et on lui a posé des tas de questions, etc. On lui a dit, mais tu n'as peut-être pas le niveau intellectuel. Et ce frère a répondu, si Dieu a parlé par un âne à Balaam, il peut parler par moi à tout un peuple. Hein? Et Dieu a vraiment, se sert vraiment de cet homme parler. Vous voyez, des fois dans notre esprit, nous limitons Dieu, n'est-ce pas? Hein? Dieu parle d'une manière et d'une autre. Tout à l'heure, donc Francis nous a partagé son témoignage. Hein, comment la petite maison dans la prairie a touché son cœur. C'est ce que j'ai retenu. Hein. Mais en réalité, mon frère, ma sœur, ne limitons pas Dieu dans sa manière de parler. La manière dont il nous a parlé est personnelle. Et il peut utiliser une autre manière quand il s'agit de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Dieu veut? Eh bien, Dieu veut que le méchant abandonne sa voie, que l'homme de rien abandonne ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, lui notre Dieu, qui pardonne abondamment. Alors oui, Dieu a parlé à Balaam. Alors le message de Dieu aurait pu être ainsi. Écoute, si mon avertissement ne te suffit pas, eh bien soit, hein, puisque tu veux malgré tout y aller et parler, eh bien, vas-y, mais fais attention à ce que tu diras. C'est Frédéric Godet qui disait que la liberté humaine est un privilège tellement précieux que Dieu le respecte jusque dans ses écarts. Parfois, Dieu nous dit, tu veux y aller? Eh bien, je te laisse libre, vas-y. Hein? Mais fais attention. Alors, Balaam devait apporter la parole de Dieu. Et ce qui s'est passé, plusieurs fois, quatre fois, il va annoncer la même chose. hein, lui-même dit, oui, voilà la sentence, hein. Balak dit, viens maudit, voilà, maudit ce peuple de Jacob, descendant de Jacob, viens, répands ta fureur contre Israël. Et Balaam ajoute, par quatre fois, comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Comment répandrai-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? Et voilà que, devant ce nom de Dieu, un Noël, eh bien, Balaam est coincé et il va donner un conseil qui achèvera le ministère de Balaam de manière dramatique. Il dira, si on ne peut pas maudire, on peut faire tomber dans le péché. Et c'est ce qui est arrivé. Et il est vrai que sa fin n'est pas glorieuse, puisque dans Nombre 31, il est dit que les Israélites tuèrent en outre, lors de ce massacre, les cinq rois de Madian, mais ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? J'aimerais finir avec trois remarques. La première remarque, mon frère, ma sœur, il y a toujours un danger à vouloir servir de maître. Toujours. Balaam aurait pu rester un prophète intègre et vrai, refuser les richesses proposées. Mais l'attrait de l'argent l'a remis en question. Et dans son cœur, il y avait à la fois ce que Dieu voulait et ce que lui secrètement voulait. Deux maîtres étaient présents. Il aurait pu rompre la négociation avec Balak. Il aurait pu dire, écoute, Dieu a dit non, c'est non. Hein? Mais son désir de richesse et d'honneur, eh bien, l'a amené à passer étape après étape. Vous savez, l'ennemi de nos âmes fera absolument tout pour nous amener à la désobéissance. C'est la stratégie du pilonnage. Et il revient avec les mêmes choses. Alors peut-être pour nous chrétiens, il est facile de voir la déviation de Balaam. Ce serait vraiment mal connaître l'esprit et le cœur humain. Nous sommes tous faits de la même pâte, hein? Et cela nous concerne aussi en tant que chrétiens. L'ennemi ne nous lâche pas. Il nous suggère que nous pouvons gagner tout en obéissant à Dieu et en étant sur un mauvais chemin. C'est l'histoire que vivra Samson, vous savez? Samson qui avait tous les privilèges et les dons possibles, hein, et pourtant qui est tombé après que Dalila l'a pilonné de questions et par son charme. C'est ce que dira Pierre, hein, l'apôtre, hein, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste. Voilà un homme qui a choisi un mauvais chemin. Alors dans la vie, il y a des choix, hein, le choix d'un métier, le choix d'une activité, d'une organisation de la journée. La question c'est, à quoi est-ce que tu donnes priorité? Et j'ai l'impression que l'ennemi nous occupe tellement que nous disons toujours à Dieu, je m'occuperai de toi tout à l'heure, et tout à l'heure, et tout à l'heure. Et on arrive en fin de journée, et le tout à l'heure est devenu quelque chose qui a pris toute une journée. Vouloir servir deux maîtres, c'est emprunter d'emblée le mauvais chemin. Si tu joues sur deux tableaux, tu finiras par perdre. C'est ce que ce texte nous dit. La deuxième remarque, c'est qu'il y a toujours un danger à vouloir utiliser Dieu, alors que nous devrions laisser Dieu nous utiliser. Cet homme est comblé de dons. Il parle à Dieu, Dieu lui parle. Mais attention, les dons accordés par Dieu ne sont pas forcément le signe que notre amour est grand avec lui aussi. Nous pouvons avoir des dons extraordinaires et avoir un amour propre qui est grand. Nous pouvons avoir le don, comme dit l'apôtre Paul, hein, de donner nos vêtements, nos richesses, de parler les langues que les anges parlent, de faire des miracles. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Balaam avait des dons qui impressionnaient les autres. Peut-être que toi, tu te dis, ah, oh, j'ai quand même pas ce don, quoi. Tu vois des frères et sœurs qui font des choses. Oh, tu les admires, hein. Moi, quand je vois quelqu'un jouer d'un instrument, maîtriser quelque chose, je me dis, oh là là, la chance qu'il a de pouvoir le faire, hein. Eh bien, sache que Dieu, n'est pas impressionné par ces dons, hein. C'est lui qui les accorde. Il ne suffit pas de connaître des choses sur Dieu ou d'avoir des dons de Dieu pour connaître réellement Dieu. La folie de Balaam nous saute aux yeux. Nous aurions peut-être aussi peut-être fait ce mauvais choix, hein, comme parfois beaucoup de chrétiens réagissent de la même manière. Ils cherchent à utiliser Dieu avec les dons qu'ils ont, hein, plutôt que de le servir. Il y a un pasteur qui disait ceci, hein, « Je vois autour de moi qu'on essaye de convaincre Dieu que notre bonheur est plus important que notre sainteté, que nos plaisirs sont plus importants que le fait de lui plaire. Combien de fois nous savons que ce que nous poursuivons est en contradiction avec la parole de Dieu. Et pourtant, nous persistons, hein, et nous désirons que Dieu change d'avis. Il y a un réel danger à vouloir utiliser Dieu plutôt que laisser Dieu nous utiliser. Et le dernier point est celui-ci, la dernière remarque. En réalité, il y a une grande paix à savoir que ce que Dieu a béni, nul ne peut le révoquer. Regardez ce que dit Balaam lui-même. « Voici l'ordre que j'ai reçu, c'est un ordre de bénir. Dieu a béni, je ne révoquerai pas. Il n'aperçoit pas d'injustice chez les Israélites. Il n'y a rien de pénible en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. » L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Vous trouvez Israël parfait, vous? Vous trouvez sa vie exemplaire durant les 40 ans dans le désert? Franchement, non. Hein? Franchement, s'il y a un peuple à qui on ne veut pas ressembler, c'est bien à ces Israélites. Comment Dieu voit-il son peuple d'Israël? Sans injustice. C'est pas normal. Comment Dieu voit-il Israël? Il ne voit rien de pénible en Israël. Alors ça, ça m'encourage. Parce que des fois, on voit des choses pénibles chez le frère et la sœur, non? Ben oui, bien sûr, je vais pas vous faire lever la main, hein? Je laisserai faire ça par Francis tout à l'heure. L'histoire de ce pasteur qui disait, je suis pris par la colère, je suis cela, nous concerne tous. Nous ne voyons pas forcément nos frères avec ses qualités ou nos sœurs. Nous sommes peut-être promptes à voir l'autre avec ses défauts, avec ses limites, avec ses manquements. Mais il y a quelque chose qui est différent chez Dieu. Il nous voit comme si nous étions justes. Et c'est ce qu'il dit, hein. Il voit Israël comme s'il n'avait pas d'injustice. Et ça, c'est absolument important. Parfois, nous subissons des attaques des ténèbres. Vous savez, une fois, j'étais à Marseille, sur une rue importante, et il y a quelqu'un qui est venu et qui a proféré des malédictions, etc. Bon, cette personne était certainement possédée. Et j'étais surpris sur le moment, mais après, je me suis dit, bon, hein, l'occultisme ne peut rien contre Jacob. Heureusement, je connaissais ce texte. Hein. Lis la divination contre Israël. Hein. Les gens qui vous maudissent ne peuvent rien contre vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec vous. Comme il est aussi avec le frère. Comme il est aussi avec la sœur. Deutéronome 23. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam. C'est ce que dit Moïse. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que l'Éternel, ton Dieu, t'aimait. Mon frère, ma sœur, si tu penses qu'il y a des choses qui t'écrasent, des choses qui t'éloignent de Dieu, eh bien, sache que si tu es au Seigneur, eh bien, tu n'es plus sous la malédiction. Tu es sous la bénédiction. Alors, ça ne veut pas dire que ça nous garantit une vie sans péché, sans erreur, hein, malheureusement, hein. Mais un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Il lui appartient. Et je crois que ce texte, moi, m'encourage aussi à voir mes frères et sœurs de la même manière que Dieu les voit, avec la grâce de Dieu dans la vie de chacun. Regarde autour de toi. Nous sommes quoi? Déjà assis, rassemblés parce que dehors il pleut, on ne sait pas quoi faire ce matin? Non. Nous sommes pour la plupart d'entre nous des gens que la grâce de Dieu a touchés. Jésus est mort pour moi. Il est mort pour toi. Il est mort pour quiconque veut venir à lui et vivre une vie paisible. La grâce de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et pour cela, il a donné son fils. Que Dieu vous bénisse, hein, et que Dieu vous accompagne. Amen.